Salut, salut, bienvenue dans Step Back, votre demi-heure hebdomadaire de basket avec la rédaction de l'équipe. Alors à la rédaction, ça va être assez simple aujourd'hui, c'est moi et un invité exceptionnel. Alors pourquoi je dis exceptionnel ? Parce que son palmarès est long. Il a été champion d'Europe avec l'équipe de France en 2013, il était même pivot titulaire, ça vous donne un indice. Il a longtemps joué en NBA, près de 10 ans. Et d'ailleurs, il est toujours près de la NBA aujourd'hui, puisqu'il est assistant coach en G League dans l'équipe des Washington Wizards, l'équipe réserve des Washington Wizards. Ce joueur, c'est Alexis Aginsa. Allez, début du game. Alexis Aginsa, bonjour.
Bonjour.
Si je vous dis Nicolas Batum, Edwin Jackson, Antoine Diot, Adrien Moerman, Kim Tilly, qu'est-ce que vous me répondez ?
La génération la plus titrée des jeunes.
Pas mal. Cadet, junior, à chaque fois champion d'Europe, presque champion du monde.
Ouais, c'est justement c'est là où on se rend compte qu'en fait, on était vraiment une vraie bande de copains et qu'on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait, quoi.
Eux continuent, les joueurs que j'ai cités auparavant, hein, de Nicolas Batum à Kim Tilly, j'ai cité 5 noms, ils continuent de jouer encore aujourd'hui. Certains sont même actifs au moment où on parle, en play-off, que ce soit en NBA ou en Euroleague ou en Betclic Elite. Vous, on le rappelle, vous avez disputé vos derniers matchs début 2019, c'était avec l'ASVEL, vous n'aviez que 30 ans, et vous avez annoncé officiellement votre retraite à 33 ans en novembre 2021. Quelle en était la raison ?
Il y en a beaucoup de raisons. L'une des raisons, c'est la politique du basket, en fait, me saoulait. J'en avais un peu marre. L'autre raison, c'était que je voulais être plus proche de mes enfants. Le niveau Euroleague, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais une saison de 10 mois, c'était trop long pour moi. Parce que mes enfants, ils restaient sur les États-Unis. Mmh. C'était trop difficile pour moi d'accepter d'être loin des enfants, loin de la famille. Et puis, la situation à l'ASVEL, quand ça s'est terminé, ça m'a un peu dégoûté du basket.
À ce point-là ?
Ouais, à ce point-là.
Donc, physiquement, vous auriez été apte peut-être à jouer quelques temps supplémentaires, quelques mois, quelques années ? Voire peut-être jouer encore aujourd'hui ?
Oui, tout à fait. Bah, je le vois là, quand j'entraîne les joueurs et qu'on me demande à jouer. Je m'en sors très très bien.
Alors, pas de regret ?
En forme. Non, pas de regret. Certes, c'est pas terminé comme je voulais terminer. Mais au final, je suis quand même content de mon choix parce que j'ai pu être là dans les moments importants pour mes enfants, quoi.
Alors, quand on se retourne sur votre carrière de joueur, on revoit des hauts, des très hauts. On revoit aussi des bas, quelques bas. Les hauts, c'est notamment les titres européens en jeunes. On en a parlé dès le début de ce podcast. Il y a eu surtout le titre en senior en 2013, vous étiez titulaire, vous étiez surtout très bon. Pour avoir couvert la compétition en entier à Ljubljana, ça faisait longtemps qu'on attendait un pivot assez dominant des deux côtés du parquet, et vous l'étiez. Votre carrière, c'est quand même presque 300 matchs de NBA, mais c'est aussi 300 matchs de NBA seulement, entre guillemets, entre des grands guillemets, alors que vous y avez joué entre 2008 et 2017, soit presque 10 ans d'écart entre votre premier et votre dernier match. C'est aussi 39 matchs en équipe de France, là encore une fois, entre guillemets, seulement. Alors, il y a des très belles choses, il y a peut-être des moments d'attente. Alors, quel est votre regard, vous, sur votre propre carrière ?
Je pense que je suis arrivé trop tôt, en fait. Si j'étais 5 ans plus jeune, j'aurais plus joué. J'avais plus d'opportunités et puis je suis arrivé au moment où ça a bataillé un peu, genre la nouvelle génération de grands qui pouvaient jouer en attaque, qui pouvaient shooter et puis les anciens qui étaient toujours là, qui ne shootaient pas, qui étaient dans la bagarre et puis dans le jeu intérieur. Donc voilà, je bataillais là-dessus et puis voilà, j'ai bataillé sur le fait que les coachs étaient toujours aussi dans l'ancien. Donc voilà, c'était une petite bataille entre le jeune qui essayait de pousser, d'essayer de montrer ce qu'il savait faire en attaque et ce que le coach demandait de faire en attaque. Donc voilà, c'est dommage parce que je pense que j'aurais pu avoir un peu plus de temps de jeu. Et on l'a vu à la Nouvelle-Orléans où j'avais un peu plus de confiance au niveau du coach, où il me faisait un peu plus jouer. Et puis voilà, j'ai pu montrer ce dont j'étais capable. Mais dommage que ce n'est pas arrivé plus souvent, quoi.
Alors, ça n'a pas dû être facile à vivre, mais c'est extrêmement intéressant. C'est vrai que les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent être étonnés, ne vont pas forcément comprendre. Mais effectivement, dans les années 2000, quand vous qui êtes grand, qui faites plus de 7 pieds, plus de 2,13 m, je ne sais pas quelle était la taille exacte. J'ai lu 2,15, 2,18. Quelle était votre taille exactement?
2,18, ouais, je crois que c'est ça, 2,18.
Et à 2,18, vous étiez capable de shooter de loin. Mais à une époque, quand on faisait ça et qu'on faisait cette taille, c'était interdit presque. Interdit, c'est un grand mot, mais du moins, on vous disait que ce n'était pas votre rôle, qu'il fallait faire autre chose. Alors aujourd'hui, ça peut surprendre, mais à l'époque, c'était vrai. À quel point vous alliez, à l'époque, contre les remarques que vous faisiez? Vous avez essayé de vous rebeller à l'époque?
Bien sûr. À l'entraînement, justement, je leur montrais ce dont j'étais capable. Mais souvent, je me faisais crier dessus. Et puis souvent, j'arrivais en match et je faisais ce que je faisais aux entraînements et que j'avais, même si je le mettais le panier, au final, je repartais sur le banc et puis sans aucune explication. Donc voilà, c'était rageant. J'ai essayé plein de fois de montrer mon talent et on m'a toujours dit d'arrêter. Enfin, y a beaucoup de jeunes de ma génération qui peuvent témoigner malheureusement de ça, non, est-ce qu'ils l'ont vu aussi. C'était le jeu, quoi.
Et personne n'a essayé de vous comprendre, par exemple, peut-être pas un coach qui, lui, avait le final cut, mais des assistants, d'autres joueurs qui essayaient de plaider votre cause?
Si, enfin, j'ai eu des assistants qui m'ont plus poussé à shooter. J'ai eu Terry Scott, qui est parti après en tant que head coach à Portland. Lui était mon assistant coach à Dallas Mavericks, où justement, je faisais beaucoup de shoot avec lui, beaucoup de shoot à 3 points. C'était très, très intéressant parce qu'il voilà, il me mettait dans cette voie que moi, je voulais aller. Et puis voilà, ça n'a pas duré parce qu'au final, j'ai été changé après pour aller à Toronto. Donc voilà.
Si j'insiste là sur ce point justement, alors déjà c'est vrai que c'est vous qui en avez parlé en premier de cette histoire, de cette difficulté à ne pas pouvoir devenir ce qu'on veut devenir, ce qu'on pense avoir le talent pour devenir. Et vous aviez du talent, vous aviez de la mobilité. Vous êtes bien placé pour percevoir la difficulté d'être mobile, coordonné. J'ai presque envie de dire d'avoir une gestuelle normale quand on a une taille hors norme, au-dessus de 2,13 m. Une bonne partie de la réussite, par exemple, de Victor Wembanyama vient aujourd'hui du fait qu'il joue comme les autres. Mieux, certes, que les autres, parce qu'il a énormément de talent, mais il joue de la même façon que les petits. Est-ce que ça vous impressionne, ça, quand vous le voyez, par exemple, chez lui?
Oui, justement, ça m'impressionne énormément. Comme vous le dites, il bouge exactement comme les autres. Il fait vraiment tout comme les autres. Donc c'est super intéressant de avoir. Et puis ça fait plaisir qu'en fait qu'un grand, qu'on laisse faire ce qu'il veut faire et justement montrer son talent. Donc ça fait énormément plaisir que voilà que lui il réussisse.
Et d'ailleurs c'est pas le seul. On voit d'autres grands, je pense par exemple à son concurrent pour le titre de rookie de l'année, c'est Chet Holmgren, c'est aussi pareil, c'est un joueur qui est beaucoup plus mobile que pouvaient l'être les grands avant. Voilà, on a l'impression qu'une nouvelle génération... Est-ce que le poste d'intérieur aujourd'hui s'est totalement révolutionné par rapport à votre époque?
Bah oui, tout à fait. Moi, à mon époque, mon coach qui était Larry Brand m'avait dit qu'il voulait que je cours... Black Shot, donc je fasse des contres, je prenne des rebonds, et puis c'est tout. Donc la génération de Wembanyama et de Chet Holmgren, c'est complètement différent. On leur demande de faire beaucoup plus ce qu'ils veulent en attaque, montrer leur talent, et puis surtout, on leur pose pas de frein, quoi. Ça fait énormément plaisir de voir que le jeu évolue là-dessus. Même si des fois, j'aimerais bien qu'on les voit un peu plus dans la raquette, mais c'est vrai que c'est pas vraiment leur jeu, mais encore... Victor, on le voit très très bien dans la raquette et il s'en sort très très bien. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir que les joueurs peuvent quand même très bien alterner et toujours exceller dans leur position.
Entre vous, qui aviez des limitations imposées par les entraîneurs, et aujourd'hui, Wembanyama, Holmgren, et on pourrait en citer d'autres, qui ont vraiment de la liberté, beaucoup de liberté, voire de l'encouragement à faire beaucoup de choses. Qui ont été les joueurs, d'après vous, qui ont vraiment apporté cette révolution, après vous ou pendant votre carrière?
De toute façon, tout le monde sait que c'est... C'est Dirk Nowitzki qui a ouvert le marché pour les intérieurs justement qui aiment shooter, quoi. Parce que voilà, c'était l'un des seuls qui faisait ça. Puis il y a eu Pogasol aussi qui a réussi à faire ça aussi. Donc voilà, c'est deux grands joueurs qui ont réussi à, et en plus deux Européens qui ont réussi justement à montrer que les intérieurs, ce ne sont pas que des grands qui restent dans la raquette. Et puis voilà, après, il y a d'autres jeunes qui sont arrivés juste après. Anthony Davis qui joue à peu près comme ça. Et puis il y a aussi Bol Bol qui est à Phoenix, qui est un peu dans le même profil que Wemby. Et donc voilà, ça aide toujours d'avoir des gens qui ont réussi à montrer ce dont ils étaient capables pour ouvrir justement la porte aux jeunes qui arrivent derrière.
Et la taille, c'est important de continuer sur la taille, mais peut-être la taille dans le sens vivre avec une grande taille. Vous en avez parlé dans votre livre, hein, The View From Here, que ce n'était pas simple à vivre. Pourtant, on peut citer votre pratique précoce du BMX, le BMX Race, qui vous avait permis d'avoir un développement corporel avec de la coordination. Vous étiez un grand, mais vous n'étiez pas un trop grand. On en a connu d'autres, voilà. Assez jeune, vous avez même eu une petite notoriété justement grâce au BMX, puis après au basket, qui aurait pu vous aider à être accepté. Pourtant, on a l'impression que ce n'était pas forcément le cas.
Oui, ce n'était pas forcément le cas. Dans le monde du BMX, quand j'étais jeune, ouais, j'avais une notoriété assez importante. Après, dans la vie de tous les jours, il n'y a personne qui me reconnaissait, il n'y a personne qui savait ce que je faisais. Puis surtout, ça ne s'intéressait pas, quoi. Nous, c'était surtout genre sur l'aspect physique qui jugeait ce dont j'étais capable, qui j'étais, quoi.
Rappelons d'ailleurs que vous avez été vice-champion du monde junior, si je ne me trompe pas, en BMX.
Vice-champion du monde en minime, ouais.
Et d'ailleurs, quand vous pensez à ça, c'était des années bénies ?
Ouais, tout à fait. C'est des sensations que c'est dur à retrouver. Parce que voilà, c'est la sensation d'être sur le BMX, de sauter des obstacles, tout ça à droite à gauche, et puis la sensation de gagner. Donc c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément dans le jeu collectif.
Avoir des médailles, des titres même dans plusieurs sports, c'est quelque chose d'extrêmement rare. Vous avez l'impression quand même d'être, j'ai utilisé le mot avant, mais je vous pose la question, d'avoir été hors norme.
J'ai pas eu l'impression de ça jusqu'à pendant le Covid. En fait, je parlais avec quelqu'un sur les réseaux. Cette personne m'a souligné plusieurs fois, mais en me disant, ouais, tu te rends pas compte ce que tu as réussi à accomplir dans ta carrière. Que ce soit dans le BMX, que ce soit dans le basket, ou écrire un livre, ou produire un film, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des choses que je ne me rends pas compte, sachant d'où je suis parti, quoi. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir, et puis surtout que ça m'étonne. Ouais. Pour moi, c'était normal. Donc je ne me suis jamais pris la tête, et je n'ai jamais changé la personne que j'étais quand j'ai grandi, quoi.
C'est vrai que vous aviez une famille de sportifs. Vous n'étiez pas le seul sportif dans votre famille, je crois.
Oui, j'ai ma sœur qui était championne du monde en BMX en 2003, en élite. Et mon frère qui était champion de France aussi. Donc on a tous été sportifs de haut niveau. Et puis mon père était champion des Antilles en lutte.
L'ambivalence dans votre carrière, elle se symbolise vraiment, je trouve, en équipe de France, parce que vous êtes à la fois le pivot titulaire, je l'ai dit, de l'équipe de France, la seule qui a gagné un titre en senior. Je parle de l'équipe de France masculine, évidemment. Un titre en senior, c'était en 2013, à Ljubljana. Et d'un autre côté, c'est votre seule véritable campagne avec les Bleus, ce qui fait qu'à la fois, on vous doit énormément, mais de l'autre, vous n'avez pas forcément eu la reconnaissance qui, elle, vient souvent du temps long.
Bon, après, voilà, je ne l'ai jamais fait pour la reconnaissance, donc ça m'est égal d'avoir la reconnaissance. Mais c'est vrai que ça fait très plaisir, en fait, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte, c'est en fait qu'à cette époque-là, quand il y a eu des désistements au niveau de l'équipe de France, Joachim Noah a dit qu'il ne reviendrait plus en équipe de France, Yann Mahini qui a dit qu'il ne pouvait pas venir cet été-là, Kim Serafin pareil, donc beaucoup, beaucoup d'intérieurs n'ont pas pu venir. Et en fait, il restait moi et Joan Petro en tant que 5. Donc voilà, les réseaux sociaux et puis surtout les journalistes disaient comme quoi ça n'allait pas être cette année qu'on allait pouvoir gagner. Donc on s'en est pris plein la tête. Et moi, je me souviens qu'avec Joanne, on était camarades de chambre, donc on ne s'est jamais pris la tête. On a toujours dit on va leur montrer à tout le monde ce dont on est capable. Puis voilà, quand on a réussi, on était tellement heureux qu'on a pu montrer aux gens ce dont on était capable et puis montrer notre talent. Ça faisait très plaisir, mais surtout qu'on allait la chercher, quoi. On allait chercher grâce à Tony Parker en demi-finale. Et puis voilà, un peu grâce à Nico et moi contre la Lettonie, où on galérait pour gagner, il fallait gagner ce match, quoi.
Quel souvenir vous en avez gardé du moment où vous êtes champion d'Europe ?
J'ai un souvenir de beaucoup, beaucoup de joie, de soulagement. Donc ça faisait énormément plaisir. Même si on savait que c'était quelque chose qui n'avait pas été fait avant, on n'a vraiment pas vraiment réalisé jusqu'à, euh, jusqu'à que on revienne en France et qu'on nous dise bah, que ouais, ça n'a jamais été fait, quoi. Mais sinon, on n'a jamais vraiment fait attention à ça, quoi.
Ce titre, il a une, il arrivait après 10, 15, 20 ans de développement du basket français. La France, par exemple, a envoyé de plus en plus de joueurs en NBA. Mais en même temps, la NBA, on sait que c'est dur d'y aller, mais que c'est encore peut-être plus dur d'y rester. Vous le savez, vous, d'ailleurs. Alors, il y a des joueurs comme Frank Ntilikina ou Killian Hayes qui sont aujourd'hui sans club, alors qu'ils ont été ce qu'on appelle lottery pick, c'est-à-dire dans les 15 premiers choix de la draft. Vous-même, vous aviez eu un creux et vous étiez revenu en Europe avant de repartir aux États-Unis. Qu'est-ce que vous a appris votre carrière que vous pourriez conseiller aujourd'hui à des jeunes joueurs?
En fait, que rien n'est jamais donné. C'est toujours une bataille, en fait. Après moi, ma carrière était différente des autres parce qu'on m'a jamais vraiment rien donné et j'ai toujours plein de doutes au niveau des yeux des gens et puis tout ça, donc j'ai toujours dû me batailler pour justement me faire ma place et avoir un contrat et tout ça, donc jamais rien ne m'a été donné. Il y a beaucoup plus de jeunes qu'on leur donne un peu plus cette année, enfin ces derniers temps avant qu'ils prouvent ce dont ils sont capables. Donc c'est un peu plus différent. Mais je dirais que le conseil, c'est que voilà, il ne faut jamais se contenter de ce qu'on nous donne. Toujours aller chercher plus. Rien n'est acquis. On a peut-être un pied, que ce soit en NBA ou en pro, à l'étranger. Mais il y a toujours des gens ou des jeunes qui arrivent derrière pour justement vous prendre votre place. Donc c'est toujours une bataille, c'est toujours t'es toujours en cherche de progression et de pouvoir prouver aux gens que voilà, tu mérites et tu dois être là, tu es là pour une certaine raison. Donc voilà, c'est jamais reposer sur ses lauriers.
Vous étiez revenu en Euroleague, vous aviez performé avec Strasbourg et puis ça vous a permis de retourner après en NBA où vous avez signé un beau contrat avec New Orleans. Quand vous voyez que beaucoup de jeunes Français s'accrochent à parfois jouer très peu ou jouer essentiellement en J-League, et on va en parler après de la J-League puisque maintenant vous y coachez, vous en pensez quoi? Certains sont quasiment vers un anonymat aujourd'hui par rapport au basket français, on va dire. Vous leur conseillez quoi? De s'accrocher, peut-être de réfléchir à une orientation de carrière?
Moi, j'ai compris ça en fait quand je suis revenu de la NBA. Donc, quand j'étais en NBA, voilà, mon but c'était la NBA, mais je m'en fous, même si je jouais pas, je voulais être là-bas. Donc, je me suis dit que la meilleure de progression c'était d'être là-bas, de pouvoir montrer ce dont j'étais capable directement aux yeux des gens qui allaient me juger, quoi. Et en fait, là où ça m'a ouvert l'esprit, c'est quand je suis revenu à Strasbourg, j'ai pu voilà, montrer la panoplie de mon jeu et puis surtout progresser là où j'avais des lacunes. Et là, après, j'ai eu l'opportunité justement de montrer ça au niveau européen. Et c'est là vraiment où j'ai vraiment ouvert les yeux aux scouts et aux équipes NBA que, voilà, que je méritais d'être en NBA. Donc, je dirais aux jeunes que c'est vrai que le rêve, c'est la NBA, mais ce n'est pas dire que tu repars en Europe, que voilà, le rêve est terminé. L'accès à la NBA est toujours possible. Il y a différentes routes qui amènent à la NBA et jamais se comparer aux autres parce que voilà, chaque personne a son propre chemin. Donc si revenir en Europe, il y a une opportunité, ce n'est pas dire que c'est un échec, c'est juste voilà, que tu as besoin de repartir justement pour montrer et exceller dans les lacunes que tu as et puis montrer aux gens que tu n'as rien à faire en Europe et que tu dois être en NBA, quoi.
Vous aviez par contre déjà compris à cette époque-là, même quand vous êtes revenu à Strasbourg, que votre vie telle que vous l'imaginiez, c'était les États-Unis. Votre épouse est américaine, vos enfants sont nés aux États-Unis. C'était forcément un passage. Certains reviennent en Europe et s'y installent parce qu'ils y font des très belles carrières. Aujourd'hui, je pense à Gershon Yabusele, par exemple. Vous, l'idée, c'était vraiment revenir vite aux États-Unis?
Oui, tout à fait. Depuis tout jeune, les États-Unis, ça m'a toujours plu. C'était vraiment le rêve que moi, je voulais accomplir. Je fais partie d'une famille qu'on vient des Antilles et puis de Saint-Étienne. Donc voilà, c'était vraiment... je venais d'une petite ville. Je voulais vraiment pouvoir exceller au niveau meilleur des niveaux, quoi. La NBA, c'était vraiment ça, ce dont je cherchais, quoi.
Vous êtes toujours aujourd'hui aux États-Unis, vous habitez à Washington. Et d'ailleurs, à Washington, vous êtes devenu cette année l'un des assistants coach au Capital City Go-Go. C'est l'équipe réserve, l'équipe de G-League des Washington Wizards. Alors déjà, comment vous en êtes arrivé là ?
Voilà, je voulais soit être agent de joueur, soit commentateur à la télé ou justement être coach. Et puis voilà, j'ai fait les formations de coach pendant le Covid. J'ai fait une formation de commentateur télé pendant le Covid, où ça s'est super bien passé. Et en fait, voilà, j'ai appelé mon ancien agent. Je leur ai dit, voilà, comme quoi ça m'intéressait d'être agent de joueur. Je leur ai demandé est-ce que ça les intéressait de m'avoir dans l'équipe. Et puis, en parlant à l'équipe de mon agence, un des agents qui m'a entendu parler m'a envoyé un message de son côté. Il m'a dit, ouais, écoute, je connais quelqu'un qui vient d'avoir ce coaching job à Capital City Go-Go. Est-ce que ça t'intéressait de postuler, quoi ? Comme ça, tu postules au niveau du coach, au niveau de l'agence, et puis tu vois ce que ça donne. Et donc, j'ai fait tout le processus d'interview, tout ça, pour pouvoir être coach. Puis apparemment, j'ai excellé sur mon interview. Ils ont adoré ma philosophie de pensée, puis la façon de penser, tout ça. Donc, ça les intéressait de m'emmener avec eux, sachant que je n'avais pas d'expérience au niveau coaching, mais j'avais beaucoup d'expérience au niveau NBA ou G-League ou même au niveau européen. Donc voilà, beaucoup de joueurs pouvaient s'identifier à moi. Ça a été une très, très bonne opportunité.
Qu'est-ce que vous avez fait alors concrètement cette année dans votre fonction ?
J'ai fait un peu tout. J'ai appris le métier. J'ai vraiment fait un peu tout. Donc j'ai fait du scouting sur les équipes qu'on venait jouer. J'ai fait travail vidéo. Je m'occupais de mes intérieurs. Je me suis occupé des ailiers. Donc tout ce qui est entraînement pour eux, individuel, tout ça, j'ai touché vraiment de tout.
Et est-ce que vous ferez toujours ça l'année prochaine ? D'ailleurs, ça engage une autre question, hein, même derrière, qui est quels sont vos objectifs à moyen terme, à long terme, si ce n'est rester dans le coaching, peut-être rentrer dans un staff plus NBA que J-League ?
L'objectif, c'est d'être un coach NBA, bien sûr. J'aimerais bien être le premier français. Ça peut être très intéressant. Après, en tout cas, ça va être beaucoup de travail. Donc voilà, on va voir. Après, j'ai d'autres objectifs, mais ceux-là, je vais les garder pour moi parce que je sais que voilà, des fois, c'est très bien de garder pour soi, puisqu'il n'y a pas de pression.
Alors, je poserai juste une seule question. Est-ce que c'est encore dans le basket ? Parce que là, vous aviez parlé d'agent, vous avez parlé d'entraîneur. C'est que des choses qui ont lieu au basket. Donc là, on parle encore basket ?
Oui, tout à fait. C'est toujours à part au niveau coaching.
Et l'année prochaine, c'est vrai que c'est le début, la première question, c'est pour ça qu'on a peut-être oublié. Vous serez encore l'année prochaine au Capital City Go-Go ?
Oui, je serai toujours avec Capital City Go-Go. L'équipe des Wizards adore mon travail. Donc voilà, c'est-à-dire que je fais de bonnes choses. Donc on va voir ce que ça va donner.
On voit aussi avec Kenny Atkinson aujourd'hui qu'on peut tout à fait être head coach ou du moins assistant coach en NBA et travailler pour l'équipe de France puisqu'il sera l'assistant de Vincent Collet. Est-ce que vous, même en restant aux États-Unis, avoir une fonction en équipe de France un jour, ça vous intéresserait ?
Ça ne dépend pas de moi, hein, ça dépend de...
Évidemment.
Ça dépend d'eux, l'équipe de France. De toute façon, ça a toujours été un rêve. Donc, j'ai toujours adoré d'être en équipe de France. J'ai toujours été très chauvin au niveau de l'équipe de France parce que représenter mon pays, il a toujours été quelque chose d'énorme pour moi, que ce soit en jeune ou avec les pros. Donc, tout dépend d'eux, pas de moi.
Il y a une dizaine d'années, que ce soit Strasbourg ou les Bleus à Ljubljana, c'était Vincent Collet, le coach. 10 ans plus tard, il va sûrement entamer sa dernière campagne en bleu cet été au JO. Alors déjà, est-ce que vous êtes toujours en contact avec Vincent Collet ?
Non.
Alors, si on regarde ça alors plus de l'extérieur, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris ? Et à l'intérieur de cette question, il y en a peut-être une deuxième qui est qu'est-ce qu'on doit penser de l'équipe américaine qui vient d'être annoncée ? Puisque forcément, les objectifs de l'un iront avec le niveau de l'autre.
Moi, ce que j'attends de l'équipe de France, déjà, c'est qu'on montre un autre visage qu'on a montré.
À la Coupe du Monde, vous
voyez. Ouais, à la Coupe du Monde. Tout simplement parce que je trouvais qu'à la Coupe du Monde, il y avait beaucoup d'ego. J'ai trouvé que c'était dommage parce que on avait quand même une très très bonne équipe et que on aurait pu montrer un autre visage d'équipe de France. J'attends même pas une médaille absolument, mais vraiment d'avoir un esprit compétitif de malade, quoi. De montrer qui on est, nous les Français, et que ce soit à tous les postes, quoi. On n'est pas n'importe qui, on est une grande nation de basket maintenant, et que il faut nous respecter. J'ai entendu cette année justement la parole de Paul Pierce ou Gilbert Arenas en disant qu'en quoi les Européens sont soft et surtout les Français qui sont des gens un peu mous et pas batailleurs. Donc voilà, c'est des mots qui me plaisent jamais. Et en fait, j'attends cette équipe de France voilà, qui montre à tout le monde voilà, qui on est. Quoi.
L'équipe de France pourrait avoir, là je pose la question d'ailleurs à l'ancien pivot, deux intérieurs extrêmement dominants, deux intérieurs qui sont d'ailleurs à la lutte pour le trophée de meilleur défenseur en NBA, c'est Rudy Gobert et Victor Wembanyama. C'est quasiment du jamais vu dans le niveau défensif associé. Est-ce que ça a un petit côté arme fatale?
Oui, oui et non. Parce que voilà, on a de très bons pivots, mais le meilleur des problèmes, c'est est-ce qu'on va savoir les utiliser? Est-ce qu'on va savoir les nourrir? C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir leur donner les bons ballons au bon moment et dans les conditions où on sait qu'ils vont exceller, quoi. C'est ça vraiment le problème qu'on va avoir. On a de très très bons intérieurs. Et on a de très bons ailiers aussi. On a une très bonne équipe au total. Après, ce qui est très dur à faire, c'est d'utiliser nos atouts dans de bonnes conditions.
C'est vrai. Vous avez parlé du fait qu'on avait de très bons joueurs, notamment des ailiers. Ben, parmi les ailiers, il y a Bilal Koulibaly. Vous l'avez beaucoup vu, puisqu'il joue à Washington, justement, aux Wizards. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur lui? On lui prête évidemment un talent fou, qu'on peut voir d'ailleurs, qu'on peut voir concrètement. Une vraie éthique de jeu, des choses extrêmement positives. Après, passer des steps, des caps, pour devenir plus qu'un simple bon joueur et devenir un joueur majeur dans une franchise, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Vous avez confiance en lui pour parvenir à passer justement ce ou ces caps?
Oui, tout à fait. J'ai une très très bonne confiance en lui. Je l'ai vu jouer plein de fois, que ce soit aux entraînements, que ce soit en NBA et tout ça. Donc, sa façon de jouer, sa façon de travailler, c'est quand même quelque chose d'exemplaire. C'est un jeune qui travaille beaucoup, qui n'a pas peur justement de se faire mal au niveau du taux de travail qu'il a à faire. C'est un jeune qui se pose pas de questions, qui c'est quelqu'un qui adore apprendre. Donc il a toujours une envie d'apprendre, à poser des questions, justement regarder les films, tout ça, d'écouter. Donc ça fait énormément plaisir de voir ça, et ça montre bien qu'en fait que cette génération de Bilal Koulibaly, de Victor Wembanyama, c'est quand même quelque chose qu'on voit pas forcément tous les jours, quoi.
Parmi les jeunes générations, la jeune génération, celle qui n'est pas encore arrivée mais qui va arriver peut-être, ou on va dire bientôt en équipe de France, il y a un certain Melvin Agença, c'est votre cousin. Qu'est-ce que vous lui répondez quand il dit que l'un de ses objectifs, c'est de faire mieux que vous?
C'est moi ce que je lui ai dit aussi. Hein. J'ai eu la même conversation avec lui, donc je lui ai dit, moi ton objectif, c'est pas de faire comme moi, c'est de faire mieux que moi.
Ce serait quoi? Ce serait quoi mieux que vous?
C'est de jouer plus longtemps en NBA, d'avoir plus de succès, c'est de jouer plus de matchs en équipe de France. Tu vois, c'est de continuer à exceller, quoi. Moi, j'ai ouvert la porte pour ma famille qui n'était pas dans le basket à la base, qui ne connaissait rien au basket. Et puis justement, j'ai ouvert la porte. Maintenant, c'est à lui d'y rentrer et puis de montrer ce dont il est capable.
Merci beaucoup, Alexis Agença, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, bonne continuation, à la fois peut-être pour monter les échelons dans le coaching en NBA ou dans vos projets, comme vous avez dit. Merci beaucoup. Au revoir.
Merci. Au revoir.